Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue et très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous Stéphane Jouot, pardon, qui est adjoint au maire et du groupe politique Choisir l'écologie à Montpellier. Il s'occupe de la nature en ville, de la biodiversité. Alors il est déjà venu à cette antenne, en fait, car c'était finalement un nouvel intérêt. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Oui, oui, tout à fait. La biodiversité, c'est quelque chose qu'on met beaucoup plus en avant aujourd'hui.
Voilà. Alors, en fait, c'est un poste qui était un peu, on l'avait dit dans la précédente émission, qui était un peu, comme ça, pour faire bien dans le générique, mais qui aujourd'hui a pris de plus en plus d'importance.
Oui, complètement. Le travail sur la biodiversité dans la ville de Montpellier est réel. C'est pas simplement un affichage et un nom pour une délégation. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler voilà. Plus en détail.
Alors, d'abord, on va parler un peu. Bon, je pense que tous les Montpelliérains l'ont vu. Parce qu'on a eu des travaux qui ont été assez longs et on commence à voir un peu les effets. Enfin, on a vu pendant cet été les effets de ces travaux. Donc aujourd'hui, plusieurs choses sont déjà mises en place sur le relooking de la place de la Comédie et de l'Esplanade. Donc on a eu d'abord la mise en place des ormes. Alors ça a été un problème un peu, ça a été très contredit, controversé, etc.
Alors ce qu'il faut dire sur les ormes, c'est que c'est avant tout un symbole. C'est pas avec les ormes qu'on va reboiser la ville de Montpellier ou qu'on va favoriser une grande biodiversité. On est sur la place de la Comédie et je crois que c'est un lieu où on peut mettre des symboles forts et le retour des arbres, voilà, c'est ce symbole-là. Mais il faut pas y voir plus, même s'ils vont quand même contribuer au rafraîchissement de la place quand ils seront un peu plus grands.
Oui, alors la place de la Comédie, elle est quand même classée. Vous ne pouvez pas y faire tout ce que vous voulez.
Non, bien sûr, la plantation des arbres a été faite en lien avec l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on est en cœur de ville de Montpellier, dans les Cuissons, donc on ne fait pas tout ce qu'on veut, effectivement.
Alors, on a vu aussi que finalement, c'était fragile, les arbres, puisque, ceux-là, comme vous dites, sont un peu symboliques, donc ils ont coûté assez cher à la municipalité, mais on espère qu'ils vont durer longtemps, et on a vu qu'ils avaient été attaqués.
Oui, alors c'est rien de grave. Ils ont été attaqués par un coléoptère qu'on appelle le galérugue de l'orme. Donc c'est un insecte tout à fait classique pour l'orme qui a l'inconvénient de manger les feuilles. Donc c'est pour ça que les feuilles se sont un peu dégradées. Mais ça ne touche pas l'arbre lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger. Il n'y a pas de souci de santé majeur. Donc on a fait un traitement biologique pour que ça s'arrête. Et maintenant, les choses sont stabilisées. Il n'y a pas d'inquiétude majeure.
Alors, qu'est-ce que vous leur avez fait ?
Alors, c'est un biocide utilisable en agriculture biologique qui, tout simplement, tue ces coléoptères.
Voilà. Et alors, donc, aujourd'hui, ils sont là et ils ont quel âge ?
Alors, ces ormes, ils ont déjà à peu près une dizaine d'années.
Ah oui, d'accord.
Parce que, comme vous avez pu le voir, ils sont quand même assez grands. Ils sont assez grands. Donc, plus d'une dizaine d'années, oui.
D'accord. Bien, alors on a vu ça, on a vu aussi l'espèce de petite banquette qui a été construite en bordure de tram oui. Et qui finalement a un énorme succès parce que j'ai vu pendant l'été les gens s'assoient spontanément dessus, enfin c'est devenu déjà un lieu approprié.
Oui, c'est assez impressionnant en fait de voir comment les habitants se sont appropriés ce lieu en une journée, j'ai envie de dire. Tout de suite tout le monde était là et c'est vrai que quand on travaille... avec les architectes, les paysagistes, on a souvent des images pour essayer de voir comment ça va, les choses vont donner ensuite. Et souvent, les images, bon, bah, voilà, elles enjolivent un peu les choses. Mais là, en fait, bah, la réalité a correspondu à l'image. Donc, c'était assez, j'ai envie de dire, réjouissant. Et en même temps, moi, ça, je trouve que ça donne des frissons quelque part quand on voit la réalité comme ça. Et je ne parle même pas de la fontaine aussi et de ces jets d'eau qui vraiment voilà, ont été occupés tout de suite par les enfants. C'était vraiment magnifique.
Alors, on va en reparler tout de suite. Je voudrais revenir deux secondes sur, justement, cette banquette. Moi aussi, j'ai été impressionnée par la manière dont les gens se la sont appropriée. Et puis, surtout, par les choix qui ont été faits sur le plan botanique, dans la mesure où ça pousse, mais c'est incroyable.
Oui, ça pousse très bien. Alors, ce qu'on a choisi, c'est tout simple. En fait, ce sont des plantes adaptées au climat méditerranéen, des plantes tout à fait classiques. On y trouve du romarin, par exemple. Voilà, toutes les plantes qu'on peut trouver dans la garrigue. Donc, ce n'est pas étonnant que ça pousse très bien.
Et les gens s'y sont sentis chez eux.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que ça crée une ambiance très agréable où on a envie de s'arrêter et on passe pas simplement, parce que la comédie, c'est au départ un lieu de passage, beaucoup, et maintenant, c'est devenu aussi un lieu où on s'arrête.
Voilà. Alors, maintenant, parlons de l'esplanade. Donc ça a été un énorme chantier.
Oui.
Il a fallu aller depuis la comédie jusqu'au quorum. Ça représente combien presque un kilomètre.
Alors, ça dépend d'où on compte. On va dire du début de l'esplanade jusqu'à la fin, on est sur un peu plus de 300 mètres. Mmh. Donc oui,
c'est grand.
C'est grand, tout à fait. Oui. Donc ce sont de gros travaux. On n'a pas terminé. Là, on a aménagé la partie centrale, donc les jets d'eau dont je parlais. Il reste encore à aménager toutes les parties latérales et qui vont être largement végétalisées. Pour l'instant, voilà, ça peut paraître un peu minéral au centre, mais il faut savoir qu'au final, en fait, on va gagner plus de 3000 mètres carrés d'espace végétalisé par rapport à ce qu'il y avait avant.
Alors, j'ai vu qu'avec sagesse, vous avez attendu, enfin, la ville de Montpellier a attendu le mois d'octobre. Hein. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous allez végétaliser cet espace. Parce que c'était assez beau quand même,
oui.
Déjà. Il y avait des fleurs, il y avait...
Oui, c'était assez beau. L'inconvénient, c'est que c'était au centre et que ça coupait un peu la vue. Et puis, c'était des plantes qui nécessitaient quand même pas mal d'arrosage. L'idée, là, ben, en fait, c'est de faire un peu comme au niveau du banc sur la place de la Comédie, c'est-à-dire de planter ce qu'on appelle des plantes vivaces, adaptées au climat et qui vont pousser à la fois très vite, sans monter forcément en hauteur pour ne pas couper la vue. Et je pense que ça va être un beau résultat aussi.
Alors, on a supprimé donc deux fontaines. Pour certains, c'est un peu un regret, parce que finalement, elles étaient quand même assez imposantes.
Ah, c'est sûr qu'on les voyait, mais je crois honnêtement que tout le monde les a oubliées maintenant, vu le succès des jets d'eau. Je crois que j'ai entendu personne regretter les anciennes fontaines, où bah, les gens s'asseyaient parfois au bord, mais il n'y avait pas d'autre usage.
Moi, j'ai entendu dire beaucoup qu'elles sentaient beaucoup l'eau de Javel.
Oui, en plus, ça c'est le cas de toutes les fontaines urbaines, voilà, parce qu'il y a des problèmes sanitaires qui se posent, donc forcément, les eaux sont traitées de toute façon.
Alors, par rapport à ces fontaines, moi j'avais une autre question un peu qui s'est posée, c'est-à-dire que à part en ayant un peu traversé la France pendant l'été, j'ai vu que ces jeux d'eau étaient finalement adoptés un peu dans de nombreuses villes. Est-ce que elles ne vont pas un peu harmoniser, universaliser les villes au détriment des fontaines un peu patrimoniales?
Alors, ces jets d'eau, je pense qu'on les trouve un peu partout maintenant parce qu'ils ont un gros avantage, c'est qu'ils rafraîchissent la ville. Et vraiment, ils permettent aux gens de se rafraîchir. Donc voilà, c'est quelque chose de très bénéfique pour les habitants, notamment quand il fait très chaud l'été, comme ici, ça peut arriver à
Donc on est dans le cadre d'un réaménagement par rapport au changement climatique.
Oui, tout à fait, c'est plus adapté au changement climatique. Et puis voilà, les fontaines de l'esplanade à Montpellier n'étaient pas des fontaines historiques et patrimoniales. Donc voilà, il n'y a pas de regret par rapport à leur disparition. Il est bien évident que si on avait eu les Trois Grâces, la fontaine des Trois Grâces sur l'esplanade, on ne l'aurait pas enlevée.
D'accord. Alors, ces fontaines, finalement, est-ce que sur le plan de l'eau, de l'économie d'eau, elles coulent en permanence aussi. Donc, est-ce qu'on fait quand même une petite économie ou pas
Alors les fontaines, les précédentes et celles qui existent aujourd'hui sur l'esplanade sont en circuit fermé. Donc ça veut dire que l'eau ne disparaît pas, elle circule, elle vient, elle disparaît, elle revient. Donc ça consomme très peu d'eau. Ce qui consomme finalement, c'est l'évaporation. Mais voilà, comparé à la consommation d'eau de la ville, c'est vraiment très 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 peu.
D'accord. Et donc aujourd'hui, alors que par contre les anciennes fontaines n'étaient pas toutes aux normes sur le plan de l'économie d'eau.
Alors les fontaines historiques, c'est-à-dire les fontaines, on va dire, qui ont plus de 50, 60 ans, en fait, sont pas des fontaines à circuit fermé. C'est-à-dire que c'est comme quand on ouvre le robinet chez soi, ça coule et ça part dans le circuit des égouts. Donc c'est de l'eau perdue. Donc il y en a encore des fontaines comme ça à Montpellier, une fontaine historique. Souvent, l'eau a été coupée quand même parce que c'était un gaspillage. De toute façon, quand il y a un arrêté sécheresse, on est obligé de les couper, ces fontaines. Ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des fontaines à circuit fermé. Donc toutes les nouvelles fontaines ne posent pas ce problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de laisser couler l'eau comme ça et de la laisser disparaître. Ouais.
C'est très, très important. Et là, vous travaillez avec plusieurs services au niveau de la mise en place de ce genre de choses.
Les fontaines, c'est surtout le service des eaux de la ville de Montpellier qui gère. Donc on travaille en lien avec eux, bien sûr, oui.
Oui, d'accord. Alors, on vient de parler un peu de ces jeux d'eau qui vont de l'esplanade jusqu'au quorum. On vient de parler également de la revégétalisation qui va avoir lieu alors en octobre, parce que c'est le mois où les arbres...
Oui, en octobre, novembre, dès qu'il fait un peu plus frais, on peut commencer à planter. Alors pour les plantes vivaces, on peut commencer dès fin octobre, ça ne pose pas trop de soucis. Pour les arbres, il faut attendre encore un petit peu. Aujourd'hui, on plante en général à partir de la mi-novembre jusqu'à fin février environ.
D'accord. Donc, c'est à venir et ça sera la surprise.
Oui, ça va arriver.
Alors, on voit déjà aussi en ce moment que sont en train de disparaître les fleuristes et en même temps les petits kiosques. Alors, les petits kiosques, il y en avait qui étaient jolis quand même.
Alors, ils sont en train de disparaître, mais ils vont revenir. Voilà, c'est pas une disparition définitive. Alors, les kiosques, oui, ils avaient un caractère qui pouvait être agréable, mais ils étaient très anciens et très abîmés. Donc, l'idée, c'est de les refaire, et c'est pour ça que, bon, pendant quelques temps, ils pourront pas être occupés, mais ils vont revenir.
Mais ils seront sur le modèle des anciens ou c'est un modèle perdu à jamais ?
Ce sera quelque chose d'un peu plus moderne. Mais l'idée, c'est d'avoir une unité paysagère et que ça s'intègre bien dans l'esplanade.
D'accord. Et ça, on l'attend pour combien de temps ? Ils vont être là un peu sur la branche pendant combien de temps ?
Alors, les kiosques, il faudra attendre la fin de l'année pour qu'ils puissent revenir.
Donc, quand même, assez rapide, donc
3-4
mois.
Oui, ça ne va pas durer très très longtemps.
D'accord. Bien, alors là, on vient de parler un peu de la comédie et de l'esplanade. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter, des choses imaginées pour le futur.
Sur ce site ou par
ailleurs ?
Oui,
sur ce site.
Sur ce site, là, je crois que l'idée, c'est d'achever l'esplanade d'ici la fin du mandat. Et puis ensuite, il y aura une deuxième partie, mais ça, c'est plutôt pour le mandat suivant, sur ce qu'on appelle le Champ de Mars, où il y aura des travaux importants à faire sur les cheminements, sur le bassin aussi du Champ de Mars, qui commence à être un peu ancien, et aussi sur l'aire de jeu. Mais ça sera pour le mandat suivant.
D'accord. Alors maintenant, Montpellier, c'est pas seulement la métropole. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites en termes de biodiversité. On l'a vu déjà, il y a eu des plantations d'arbres. Il y a eu à la rentrée énormément d'écoles qui ont été déjà végétalisées, etc. Alors aujourd'hui, Montpellier, donc, s'est mis à l'heure de la biodiversité.
Tout à fait. Alors, symboliquement, ce qui se voit le plus et ce dont on entend parler le plus, c'est la plantation des arbres, donc notre programme 50 000 arbres. Mais il y a d'autres façons, en fait, de protéger...
Alors, ça avance quand même, ça.
Oui, alors on sera à la fin de l'hiver à 37 000, 38 000 arbres. Donc, on va atteindre l'objectif de 50 000. Mais planter des arbres, c'est très bien, il faut le faire, mais l'idée, c'est d'abord de préserver en fait le patrimoine existant. C'est pour ça que là, aujourd'hui, on est très content d'annoncer que la zone des coteaux à Malbosque, qui devait être construite, il devait y avoir 1000 logements, bah, ne sera finalement pas construite. Et ça, c'est très important parce que, on le sait, il y a eu une chute importante de la biodiversité. Par exemple, 30% des oiseaux des champs ont disparu en 15 ans. Mais voilà, ce qui fait disparaître le plus la biodiversité, c'est la disparition des espaces naturels, la bétonisation et les constructions. 30% de la biodiversité, 30% de la disparition, pardon, est due aux constructions. Donc là, on a une zone d'une vingtaine d'hectares qui ne sera pas construite. Et c'est ça une vraie action en faveur de la biodiversité.
Alors, on a parlé, pour revenir sur ce sujet, de la fameuse ZAN, c'est-à-dire de la zone d'habitation zéro, c'est-à-dire qu'il était interdit. En fait, est-ce qu'on en tient encore compte? Est-ce qu'on la prend pour moitié? Comment ça marche?
Ah oui, c'est quelque chose qui s'impose à nous, le ZAN, donc le zéro artificialisation nette.
Voilà, merci.
C'est pas simple à dire. Et dans le cas du futur PLUI, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte. Alors le zéro artificialisation nette, il est pas pour l'horizon 2030. Ce qu'on nous demande à l'horizon 2030, c'est d'imperméabiliser deux fois moins que ce qui a été fait dans la période précédente. Et ça, c'est prévu par le futur PLUI qui sera voté pour la première, en tout cas le premier vote, puisqu'il y aura deux votes au mois d'octobre.
Donc là, on va commencer donc à désimperméabiliser. Et on va commencer par quoi?
Alors la première chose, c'est de ne pas imperméabiliser. Donc on commence par ça, j'ai envie de dire. Parce que
donc c'est dans les nouveaux travaux.
Alors, l'idée, c'est qu'il y a des endroits où on ne va pas faire de travaux. C'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'on va laisser la nature. Peut-être qu'on peut créer des cheminements pour que les gens puissent profiter de la nature. Mais la priorité pour la biodiversité, c'est de laisser les endroits sans travaux. Ensuite, dans les endroits où on fait des travaux, effectivement, on va pouvoir désimperméabiliser. Donc, c'est-à-dire rendre des espaces à la nature. Il faut le faire. Mais il faut quand même savoir que ça, c'est quelque chose qui est très, très coûteux. Et que, voilà, c'est beaucoup moins coûteux de ne pas imperméabiliser. Donc, on désimperméabilise dès qu'en fait il y a des travaux, dès qu'il y a un chantier qui est en cours, on le fait bien sûr. C'est le cas de l'esplanade dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on a 3000 m² de plus qui seront désimperméabilisés.
Donc vous allez effectivement travailler là-dessus, mais il y a une... enfin on entend dans le milieu écologiste notamment dire qu'il faudrait enlever le macadam pour mettre aujourd'hui des revêtements qui soient moins imperméables. Est-ce que Montpellier part sur cette direction aussi ?
Ah oui, complètement. L'idée, c'est une des façons de désimperméabiliser. Il y a des façons qui sont en fait pas liées au macadam, qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, ça sera le cas au niveau de l'avenue Buisson-Bertrand ou sur le boulevard des Arceaux plus tard. On va par exemple désimperméabiliser les zones qui sont situées entre les arbres. En fait, ce sont des zones qui étaient au départ des places de parking. Et on supprime ces places de parking, ou en tout cas, on les met dans un autre sens, pour faire des alignements d'arbres désimperméabilisés. Donc, ce n'est pas un nouveau revêtement qu'il faut mettre. On enlève le revêtement et on gagne beaucoup de mètres carrés, en fait, sans goudron.
Et vous n'avez pas peur, en multipliant comme ça les arbres? On sait qu'on est dans une région extrêmement fragile sur le plan de la ressource eau. Et donc, on sait aussi que, bien sûr, planter des arbres, c'est davantage d'absorption d'eau. Et par exemple, on a souvent des gens de l'ONF qui nous disent « Attendez, c'est bien joli, mais il faut voir plus de forêt. » Parfois, c'est vouloir aussi plus d'eau. Donc, comment vous liez les deux difficultés?
Alors, l'arrosage, en fait, pour les arbres, il est important les trois premières années.
Non, mais ça, vous parlez d'arrosage, mais oui. L'arbre lui-même, il a besoin d'eau.
Oui, alors, les arbres ont besoin d'eau, évidemment, et on plante des arbres qui sont adaptés au climat. Donc, qui ont un besoin d'eau important, mais qui n'est pas supérieur à ce que le climat peut apporter. Alors, là-dessus, il y a une difficulté, parce qu'on sait que le climat évolue. Donc, les précipitations deviennent de plus en plus aléatoires. Donc, il faut être assez clair, on plante des arbres adaptés. Mais à l'horizon 2030, 2040, 2050, on n'a pas une idée précise du taux de précipitation et donc de la résistance des arbres. Ça, c'est certain. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Il n'empêche que quand même, il faut planter parce qu'on sait que certains arbres vont peut-être mourir, mais l'idée, c'est qu'un maximum d'arbres survivent.
Oui, bien sûr. Mais alors, vous avez peut-être des conseils à donner aussi. Enfin, par exemple, vous parlez des arbres adaptés au climat. Vous faites ce travail avec l'INRA, vous faites ce travail avec qui ? Qui vous conseille sur les arbres adaptés ? Par exemple, on savait que Francis Allais s'était élevé très, très largement contre les palmiers qui avaient été plantés. Il trouvait que c'était une hérésie et qu'il y avait des arbres sur Montpellier, comme le micocoulier, par exemple,
bien
qui
sûr.
Étaient tout à fait adaptés.
Bien sûr.
Alors, vous travaillez avec qui
Alors déjà, évidemment, on ne plante plus de palmiers depuis que je suis arrivé. Les palmiers, c'est fini. D'ailleurs, d'un point de vue botanique, on ne les considère pas comme des arbres. En tout cas, on n'en plante plus. Ils n'apportent rien de positif. Ensuite, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que dans une grande ville comme Montpellier, on a la chance d'avoir des services qui sont très compétents. On a des ingénieurs qui travaillent sur ces questions et qui appartiennent à la collectivité. Et puis, on travaille effectivement en lien avec des chercheurs. On travaille, par exemple, avec le CIRAD. Il y a un chercheur qui nous accompagne dans le comité arbre que j'ai créé, qui s'appelle Yves Caraglio, qui est un spécialiste de l'arbre et qui nous conseille aussi. Mais voilà, la ville de Montpellier, elle a une chance, c'est qu'elle a beaucoup de chercheurs. Et donc, on est en lien constant avec ces chercheurs.
Bien sûr, on a un centre...
C'est extraordinaire.
Oui, absolument.
Ouais, c'est extraordinaire.
Aujourd'hui, vous priorisez quel type d'essence hein? C'est un peu... Je vous pose la question, ce n'est pas tellement par curiosité par rapport à la ville, mais c'est aussi par rapport à tous les gens qui vont créer des jardins, pour qu'ils aient une idée aussi du type d'arbre qu'ils doivent utiliser.
Alors, la base, ce sont des essences locales. Des essences méditerranéennes, vous parliez du micocoulier, c'est tout à fait, en tout cas pour l'instant, ça reste tout à fait adapté. On peut parler aussi des chênes qui sont aussi encore adaptés, le chêne blanc, le chêne vert, poussent encore très bien. Après, il y a aussi des espèces de pins qui poussent très bien. Alors, peut-être même que les espèces qui vont le mieux résister sont les pins. Mais là-dessus, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas les planter en bordure de voirie. Ça a été fait par le passé, mais ça pose beaucoup de soucis puisque les racines déforment les voiries et ça ne devient pas circulable.
Ah, c'est comme le problème de la Grande Motte. La Grande Motte, ils ont tous leurs trottoirs qui sont en train de voler en éclats à cause des racines d'arbres.
C'est ça. Donc, il faut planter des pins. Mais pas en bord de voirie, on peut les planter dans des parcs et en mélangeant, parce que sinon les sols sont un peu plus pauvres avec la présence de pins. Mais ce sont des essences qui sont adaptées. Après, on peut aussi tester de nouvelles essences qui viennent d'autres régions du monde pour voir si elles s'adaptent, avec cette idée que de toute façon, il faut diversifier la
palette végétale. Sur le corum, j'ai vu que vous aviez mis même des eucalyptus.
Oui. Alors, les eucalyptus résistent très bien.
Ils ont l'air, en tout cas.
Oui, oui.
Ils ont bien pris. Ils ont bien...
Oui.
Voilà.
Ils sont très bien.
Alors, maintenant, on va avoir... parlons un petit peu de Montpellier et du reste du monde. On a un grand rendez-vous bientôt qui sera à Cali, en Colombie, qui est
tout
la COP 16. Alors déjà, juste, moi, je fais un petit rapport parce que les gens sont étonnés qu'on en soit... Et à chaque fois que je dis COP 16, ils disent « Mais non, tu te trompes, c'est COP 28 ». Non, c'est vrai,
oui.
On est habitué à la COP climat, donc on en est à la 29e cette année, mais on en est à la 16e seulement en termes de biodiversité, dans la mesure où elle a été signée en même temps à Rio que la Convention climat.
Tout à fait.
Mais elle a été longtemps en suspens à cause d'une discussion sur l'accès au vivant qui a partagé le nord et le sud. Enfin, on y reviendra très largement. Je reparlerai de ce problème de l'APA dans nos prochaines réunions, dans nos prochaines émissions sur l'écologie et Cali. Alors, donc aujourd'hui, la ville, quand même, je suppose, va marquer cet événement.
Oui, tout à fait. On a une délégation qui va aller à Montpellier avec Clara Hart, donc ma collègue qui est vice-présidente de la métropole chargée des relations internationales, qui ira avec un responsable du service biodiversité à Cali pour cette COP. On est déjà en train de travailler avec des chercheurs de Cali, mais aussi de Rio pour préparer cette COP. Donc Montpellier, sera partie prenante.
Alors, qu'est-ce que vous faites en préparation? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On en est à un mois maintenant.
Oui. Alors, par exemple, nous, on travaille sur un groupe de réflexion sur la question alimentaire. Alors, on peut se dire, bon, l'alimentation et la biodiversité, qu'est-ce que ça vient faire ensemble? Il y a un véritable lien. On sait que l'agriculture, en fait, si elle est bien pratiquée, c'est de la biodiversité. Elle est source de biodiversité et parfois on oppose l'agriculture à la biodiversité, mais une agriculture biologique ou de permaculture en fait va favoriser le développement ou le maintien. Donc voilà, c'est sur ce sujet qu'on travaille principalement pour l'instant avec les chercheurs de Cali ou de Rio.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message
par rapport à la biodiversité?
Par rapport, oui, au travail que vous êtes en train de mener là.
En fait, l'idée, c'est que la biodiversité, elle, c'est pas simplement protéger les petits oiseaux, les insectes. En fait, c'est réfléchir globalement. Ce qu'on fait, c'est en lien avec ce qu'on appelle le One Health, le une seule santé, avec l'idée qu'il faut réfléchir de façon systémique et que c'est notre façon de vivre, sur tous les points de vue, qui a un impact sur la biodiversité. Donc c'est ça, cette approche. C'est la même approche que la convention qu'on a signée avec plusieurs groupes de recherche à Montpellier, CNRS, INRAE, CIRAD, etc., et l'Université de Montpellier, bien sûr, sur l'écologie de la santé. Et avec cette idée qu'il faut réfléchir en termes d'écosystème. Et nous sommes un élément, nous humains, de l'écosystème, mais nous sommes un parmi d'autres. Alors il faut nous prendre en compte, bien sûr, mais on ne peut pas se penser de façon, on va dire, séparée de l'écosystème. Et on ne peut pas se penser de façon séparée de la biodiversité. Nous sommes dans cette biodiversité. Alors on a un impact qui est très fort, mais il faut nous penser comme faisant partie, en fait, de tout un système. Et l'alimentation, c'est un bon exemple.
Mais c'est aussi un fondement de notre réalité.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, là, en fait, vous avez la chance d'être... je suppose qu'on va parler beaucoup dans différentes enceintes de cette dimension, de cette approche systémique. Et je pense que Montpellier, ayant la chance d'avoir les laboratoires dont il dispose, doit être assez original en France par rapport à cette vision des choses.
Ah ben sur les questions d'écologie, en tout cas, c'est vraiment la ville de référence en France. J'ai envie de dire même en Europe, voire dans le monde, sur la convention là dont je vous parlais, d'écologie de la santé. Ça n'existe nulle part ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu similaire à Singapour, mais seulement dans cette ville d'Asie et pas ailleurs.
Donc on va suivre, bien sûr, tout le travail aussi qui va être mené en termes de colloques par Medvalley, par exemple.
Oui, c'est en lien avec Medvalley, tout à fait. Oui, oui.
Donc, vous liez ça. Et sur le plan alimentation, vous avez évoqué des nouvelles formes d'agriculture. Montpellier joue un rôle important dans cette dimension. Encourage.
Oui, tout à fait. Alors, autant à la ville qu'à la métropole, avec mes collègues Isabelle Touzard et Marie Massard, l'idée, effectivement, c'est de promouvoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et même au-delà, qui favorise la biodiversité. Alors, c'est l'agriculture en milieu urbain, alors avec des choses comme les jardins familiaux ou le jardin partagé, dans un milieu très urbain. Et puis ensuite, une agriculture productive qui doit respecter les principes de l'agriculture biologique. Et c'est ça qu'on favorise à Montpellier. Ouais.
Alors, on va avoir l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Dernière question avant que vous ne partiez. Est-ce qu'on a des entreprises qui se sont un peu engagées à Montpellier sur cette notion de la biodiversité? On parle souvent des entreprises qui s'engagent sur le climat maintenant. Ouais. Mais sur la biodiversité, comme c'est quelque chose de nouveau, est-ce qu'on a des entreprises?
Alors, elles ne s'engagent pas officiellement. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de mise en avant de la biodiversité. Mais dans le travail qu'on fait avec eux, on les aide à prendre de plus en plus en compte cette biodiversité. Et l'exemple que je peux donner, c'est le comité arbre. Donc le comité arbre, c'est une instance qui examine tous les projets publics et de plus en plus privés, qui ont un impact potentiel sur les patrimoines arborés. Donc on a des promoteurs qui viennent présenter leurs projets, et on les aide à mieux prendre en compte la biodiversité sur leurs projets. Et ça les intéresse, et leur regard est en train de changer. Ils savent que c'est quelque chose aussi qu'ils peuvent mettre en valeur, c'est une question d'image, tout simplement. Donc oui, le privé commence à s'y mettre.
Bien, merci Stéphane Jouot. On aura merci encore mille et une choses à se raconter. Je pense que de toute façon, tout notre trimestre là va être consacré à cette grande cause qu'est la biodiversité à travers effectivement les virus, etc. Et on va essayer de montrer en quoi la Convention climat, où les gens commencent un peu à être informés, rejoint quelque part la Convention sur la biodiversité. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.